Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai astronaute. Astronaute.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école.
L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots, les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants.
Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire.
Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine. Car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Salut Jenny.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, très bien. Bah écoute, on est super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Merci à toi pour cet honneur.
C'est moi qui suis honoré.
Merci. Je te laisse te présenter un petit peu pour expliquer aux personnes qui écoutent qui tu es.
Alors, je m'appelle Lenny Bunga, je suis un humoriste panafricain. J'ai 32 ans et je suis né ici à Paris, mais j'ai grandi à Nice, donc j'ai bougé un peu partout en France en vrai.
Pourquoi tu es revenu sur Paris?
Parce que quand tu veux faire de l'humour en France, faut forcément monter sur la capitale, parce que tout le réseau se fait ici, sur la capitale, à moins que tu veux faire une carrière à Nice, comme Mado la niçoise. Et voilà, non, je voulais remonter. Puis même Paris, ça a toujours été un peu ma ville de cœur pour le coup. J'ai toujours dit, si je devais vivre quelque part en France, ce serait à Paris. Et si je devais vivre autre part qu'à Paris, ce serait hors de la France, c'est sûr.
Et où, justement?
Afrique, c'est sûr. Mais ouais. Où encore, je sais pas. Je me fixe l'idée de me faire un pays par an, au moins.
D'accord.
Un ou deux pays par an, et à la fin, quand j'aurai choisi ma destination, ça sera là où je me poserai. Pas forcément le Congo, parce que tout le monde se dit « Ah, t'es originaire du Congo, tu vas finir là-bas ».
Pas forcément.
Non, c'est l'endroit où je me sentirais le mieux, je pense.
D'accord.
Mais en Afrique, c'est sûr.
Bah, tu vas pouvoir demander à Sandy, d'Aben Africa, de te guider en même temps. Bon, alors, je voulais savoir un petit peu, toi, en fait, ton enfance, ça s'est passé comment?
Figure-toi que l'enfance, ça s'est plutôt bien passé, c'est plus en grandissant que c'était un peu tendu, mais... L'enfance, moi j'ai grandi, je suis né ici, mais après j'ai grandi dans le nord, en Picardie, dans un tout petit village de 200 habitants.
Waouh.
À 80 km de Camini, donc non, ce n'est pas mon Camini. Enfant, je pense, quand on arrivait, peut-être j'étais trop petit pour comprendre, mais on n'a jamais eu de racisme.
D'accord.
Enfin, on était très ouverts. Je pense que mon père, quand il est arrivé dans ce village, il a dit, ok, il faut qu'on se fasse un maximum de gens... reconnaissant qu'ils peuvent être de notre côté, tu
ouais.
vois. Et non, en fait, il est parti, il a joué un match de foot avec les anciens du village.
Ouais, le foot, ça.
Et ils l'ont, ouais, ils l'ont tout de suite accepté, et voilà. Ils ont tout de suite accepté, quoi. C'était vraiment
D'accord.
très, très cool. Des fois, t'entendais quelques mots. Hein. Mm-hmm. Forcément, je pense que t'es à la campagne, tu connais les enfants, ils répètent beaucoup ce que disent leurs parents. Ils vont pas forcément... Ils vont te dire des choses, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire.
Oui, bien sûr.
Donc ça va être beaucoup du « on m'a dit ça, donc faut que je dise ça mmh. ». Mais non, on n'a jamais eu trop de racisme frontal, en tout cas, à Milancourt.
D'accord.
Le nom du village.
Donc tout s'est bien passé dans ton petit village,
ouais,
à côté de Camille.
C'est ça. Après, on est parti à Nice.
Ouais.
À Nice, voilà, c'est là que ça s'est un peu plus... Bah, quand tu arrives dans une grande ville, en plus Nice. Moi, je me souviens, quand on arrivait à Nice, il faut savoir que peut-être une ou deux décennies avant, les Noirs à Nice étaient persona non grata, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer... sur le territoire niçois.
D'accord, ça je savais pas du tout.
Bah ouais.
Tu vois, les Noirs n'avaient pas le droit de rentrer sur.
Ouais, moi aussi, j'ai appris ça, j'ai fait. Bon, on me dit, ouais, il y a encore. Peut-être, Moi, je suis arrivé dans les années 90, quoi. On m'a pris ça dans les années 90, donc ouais, c'était vrai, 20 ans, comme ça, un peu avant. Ils disaient, ouais, les Noirs étaient... C'est pour ça qu'il n'y avait pas énormément de Noirs dans cette région. Il y avait beaucoup de personnes d'origine maghrébine, tout ça, mais des Noirs, il n'y en avait pas. Moi, je me souviens, on était peut-être une des premières familles noires. Et à l'école, j'ai dû attendre la quatrième pour avoir un autre
enfant noir. Quoi. Et en fait, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir que tu étais justement pas bienvenue, en fait?
Quand j'étais au CE2, je crois, ouais, c'est ça, au CE2. Mm-hmm. Un jour, je m'embrouille avec un garçon de mon école et il me dit « Toi, de toute façon, tes ancêtres, c'est des esclaves. T'es, t'as 8 ans
comme ça.
Et c'est fou parce que tout ce qu'on t'a appris depuis que t'es tout petit, c'est ça. »
Ouais, donc, non mais c'est vrai.
Dans ta tête, c'est bah...
Ouais, qu'est-ce que tu peux répondre
qu'est-ce
à ça,
que
quoi
je peux répondre à ça. J'étais dépité. Je dis, ouais. Qu'est-ce que je peux... À midi, je suis rentré chez moi, je suis parti voir mon père, je lui ai tout expliqué. Je dis « Ouais, il a dit qu'on était des esclaves et tout. » Et mon père m'a dit, dis-lui que le premier homme sur Terre, c'est un noir et que lui n'est qu'une photocopie.
Mmh. Oh, j'étais content.
À 14h, je suis revenu. Eh, hey, toi là! Viens ici! Photocopie! Viens ici! Et même lui, je pense qu'après, il m'a pas cheaté. Il a fait, de quoi tu me parles?
Ouais, voilà.
C'était 3 heures après.
Ouais, ouais, bien sûr, il était déjà passé à autre chose, quoi.
Il était déjà en train d'insulter d'autres personnes, donc. donc ouais, je crois que c'était la première fois où ça va, wow.
Ouais.
Tu sais, j'avais rien à répondre. Alors que d'habitude, c'est parti. Mais là, j'avais rien à répondre, quoi.
Et c'est ça aussi le plus dur, en fait. C'est de ne pas pouvoir répondre, c'est qu'il y a un espèce d'électrochoc et tu peux même plus parler, quoi.
Ouais, c'est chaud, t'es là genre, ah, tu m'as eu.
Ouais. Et ça reste, hein, tu vois, mais parce que là, aujourd'hui, je sais pas l'âge que tu as, je vais pas te le demander parce qu'il y a des gens qui
32,
veulent.
32, je m'en fous.
Ah, ça va.
J'assume à totalement.
C'est un petit jeune, en fait. Donc, du coup, en fait, même aujourd'hui, tu te rappelles. Ouais. Lui, ce mec-là, je suis sûre, il sait même pas de quoi tu parles. Ah, tu le croises un jour, tu lui parles de ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte?
On était ensemble à l'école. Après, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'étais vraiment une grande gueule. Tu vois. Mm-hmm. J'étais une grande gueule et j'aimais bien me battre aussi quand j'étais petit. Mm-hmm.
Donc du
je
coup,
je pense que ouais, ça s'est très vite réglé, quoi. Bah, c'est très chaud que ça se règle par la violence, mais mm-hmm. ça s'est très vite réglé. Et après, je pense que ouais, je pense que j'étais tellement une grande gueule, que j'ouvrais tellement de bouche, que j'avais tellement de répartie, que les gens m'ont très vite. Ouais, faut pas le faire chier. Mm-hmm. Tu sais, on habitait dans des quartiers assez aisés mm-hmm. quand j'étais petit. Et le seul problème qu'on avait avec mon petit frère, c'est que quand on rentrait de l'école, on se faisait toujours contrôler, quoi.
Ouais.
Parce que dans leur tête, c'était que font deux noirs dans ces quartiers-là.
Non, mais tout à fait. T'avais pas ta place dans l'espace urbain, là, c'était pas bon.
On rentre, je me souviens toute ma vie, un jour, on rentre avec notre vélo. Hop, voiture de police, mettre sur le côté. Il a acquis le vélo, bah, il est à nous. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, on habite ici.
Et du coup, toi, tu le sentais comment, le fait d'être toujours, quand on demandait toujours de te
justifier? Au début, nous, c'était en mode genre, bah, ça doit arriver à tout le monde, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Pourquoi que nous mm-hmm. C'est un jour, on m'a dit à mon père, ouais, on rentre, chaque fois qu'on rentre de l'école ou chaque fois qu'on rentre du parc, on se fait contrôler. Et on, tu vois, genre...
Non, mais c'est sûr.
Et mon père, il me dit, bah, en gros, il a essayé de nous expliquer un peu avec ses mots, tu vois, en mode, bah, que c'était pas facile, que ça allait pas être facile et que, bah, c'est pas grave, qu'il fallait soit répondre normalement, soit... Après, mon père nous a toujours dit à tous ses enfants, tout sauf la prison.
Mais c'est bizarre, hein.
Ouais, mais je pense qu'il le sentait, hein. Je pense que... Moi, j'avais une théorie, tu me dis ce que t'en penses.
Ouais.
J'avais une théorie sur les coups. Tu sais, quand... Non, mais...
sur les coups. Ah, sur les parents, sur
sur les parents. Tu sais, tu parles à n'importe quel descendant d'afro ou maghrébin, on va tous te dire. Tu sais, c'est comme si tu avais dit qui respire. Qui s'est pris des coups, tout le monde va lever la main, tu vois. Et mais, ça va être dur de dire ça maintenant, mais mm-hmm. tu sais, aujourd'hui, moi, je trouve pas ça choquant. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore en parler. Tu vois, avec des potes, on en rigole. Quand ta mère, elle courait après toi avec la baguette. Tu vois, on en rigole. Et quand j'étais petit, je me demandais toujours pourquoi. Pourquoi cette violence alors que c'est censé être nos parents. Et un jour, mon père m'a sorti une phrase, il m'a dit « Je préfère que ce soit moi qui te ramène plutôt que la police. » Et tu vois, je pense que c'est révélateur de beaucoup de choses. Enfin, dans ma tête, je me suis toujours dit « Nos parents, tu vois, ils ont... Voilà, » On était aussi nombreux, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué pour les coups, mais je pense que on oublie qu'ils sont arrivés dans les années 70-80, dans les années 70-80 à Paris ou en France. Noir ou arabe, c'était très chaud, quoi. Mm-hmm. Tu vois, tu regardes Châtelet aujourd'hui, tu te dis, Châtelet, c'est multiculturel. Tu regardes il y a 20 ans, ça appartenait au skin, quoi.
Non, mais c'est sûr. Hein.
Et ouais, donc je me disais, si notre parent nous tapait, c'est parce que forcément, ils étaient dans leur tête, c'était, je préfère que ce soit moi qui te tape, clairement. Mm. Plutôt que ce soit, quand je dis la police, soit qui te tape, soit qui te ramène pas, quoi. Mm-hmm. En gros, c'est ça. Mm-hmm. Moi, je le ressens comme ça, genre, les coups, c'est, vas-y, je te mets des coups parce que, si c'est pas moi qui te le fais comprendre avec une gifle, j'ai pas envie que, demain, on te tape à la porte, votre fils, il est décédé, ou votre fils est en prison, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que leurs parents, c'est pareil. Ce qu'on oublie encore une fois, c'est que leurs parents, eux, ont connu la colonisation. Donc c'était en mode genre, on va te trancher la main, on va te trancher la langue, on va te trancher la tête. T'as pas envie de mettre une claque à ton fils pour que tu dis, regarde ce qui se passe.
C'est tellement violent en fait que t'es obligé d'utiliser une autre violence pour lui ouvrir les yeux.
Tellement ça. Et je pense que c'est pareil pour les parents de nos grands-parents. Mm. C'est qu'eux, ils ont vécu l'esclavage en pleine face. Donc c'est en mode genre, hey, nous, ils ont entendu l'histoire de personnes qui disparaissaient, qui se faisaient enlever par des blancs. C'est normal, tu mets une tarte à ta gosse pour dire, hey, t'enfuis pas là, sinon je vais pas te retrouver.
Alors moi, ma théorie sur ça, c'est plutôt dans le sens où en fait, ils ont été tellement habitués à être tapés, justement, matés par des sévices corporels, qu'en fait, ça a créé une espèce de transmission de la violence.
Ouais, c'est ça. C'est
donc, clairement ça. C'est vrai que... Mais il y avait aussi une espèce de fatigue psychologique. Bon, toi, ça va parce que t'étais peut-être dans des beaux quartiers, tu vois, Ulrich, c'est pareil. Mais ma mère, elle était femme de ménage, elle faisait je ne sais combien de chambres par jour, elle perdait 10 kilos. Quand je rentrais, elle avait juste besoin de repos. Moi, je suis mère aujourd'hui, je sais même pas comment elle a tenu en fait.
Vous étiez combien
Nous, on était que deux, mais elle était femme seule, tu vois.
Ouais, je comprends.
Et franchement, ça... aujourd'hui, je me dis, mais ma mère, elle a eu une vie, elle s'est sacrifiée, clairement. Sa vie, c'est une vie de sacrifice.
Parents, vrai, nos parents, c'est des sacrifices. Hein. Mm. Ma mère, je vois, c'est clairement ça. Ouais, moi, j'ai ce truc de me dire, comme si... nous, on était six, tu vois. Mm-hmm. Je pense que tu peux expliquer une chose à un enfant, deux enfants, à six, c'est très chaud.
Ouais.
Et je pense qu'à un moment, la claque va très vite, quoi.
Mais après, tapez pas vos enfants. Hein.
Faites-le.
Ah là, regarde-le. Non, moi, je suis contre.
Regardez, on n'est pas mort. On n'est pas mort.
Ah, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est ça. Donc, non. Et du coup, en fait, avec tes frères et sœurs et tes parents, ça se passait comment avec l'école? Par exemple, toi, quand tu revenais de l'école, si tu avais fait une bêtise ou si. Comment ils le prenaient, tes parents?
Moi, le truc, c'est qu'on était six, tu vois. Mm. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais le moins pire des six.
Et t'étais dans quel? T'étais le cadet?
Non, je suis le premier des garçons, mais il y a trois filles avant moi.
D'accord.
Moi, mon truc, c'était, je me disais, vas-y, mes parents ont déjà assez de problèmes avec mes autres frères et sœurs. Essaie de moins concentrer. Donc, tout ce que je faisais, c'était forcément moins catastrophique comparé à ce qui se passait à côté. Donc, ça va, tu vois. Je me faisais oublier, c'était ma technique.
Fais-toi oublier.
Partout que ce soit avec mes grands-parents, pareil, mes grands-parents. Ma grand-mère du côté de La Réunion, on est parti la voir une fois à La Réunion avec une de mes grandes sœurs et mon petit frère, qui est généralement. Et eux, ils se sont pris des raclés de ouf. Et comme je me disais, ils sont plus infernales que moi. Si je reste un des cas en dessous, je pense que je vais passer crème. Et je suis passé crème, je suis devenu l'enfant préféré de ma mamie.
Comment il est content, ça se voit.
Je pense qu'il y a ce truc de, mes parents ont déjà ces problèmes, je pense qu'ils leur ramènent des problèmes. Tu vois. Comment ils font? Surtout ma mère, parce que mon père, elle travaillait et tout, mais ma mère, je me disais, waouh. Ah, je dis ma mère, mon père aussi. Hein. Ma mère est tombée malade quand j'étais petit. Mm-hmm. Et c'est mon père qui nous a gardé, il a arrêté son travail, il nous a gardé. Enfin, je pense qu'on a une certaine image de. Du père noir qui va s'en aller très. Moi, mon père, sur le coup, il s'est donné pendant plusieurs années quand ma mère était à l'hôpital. Il nous ramenait à l'école. Mais j'ai toujours dit à mon père, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, je le respecte à mort pour ça. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme nos parents, nos grands-parents. Souvent, on pense qu'ils sont. Je prends pour nos parents. Okay. Mm-hmm. Qui sont éternels, on leur pose pas de questions parce que c'est nos parents ils sont censés être acquis, tu vois. Mais je pense que moi, il y a plein de choses que j'ai appris sur ma famille qui font que je comprends plus certaines choses sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai posé énormément de questions à ma mère, j'ai posé énormément de questions à mon père, et que en posant ces questions, ça a décanté plein de choses. Ça a fait donc là je comprends pourquoi je suis comme ça, ou je comprends pourquoi ça nous est arrivé. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument énormément parler à nos parents, quoi. Je vais pas se dire que c'est nos acquis qui seront là quand on sera vieux, ça n'existe pas, ça. La vie peut être très brutale, quoi.
Bien sûr.
Ah ouais, mais la chance que j'ai, moi, j'avais, pour le coup, deux parents assez new school dans leur tête, tu vois. C'était assez jeune dans leur tête. Et du coup, mon père m'a toujours très vite parlé comme pas un pote, mais en mode genre, prends ta responsabilité, quoi. Il m'a toujours parlé, il m'a dit, moi je suis un homme, t'es un homme, maintenant on parle entre hommes. Ça, cette phrase, pour moi, ça a toujours été plus facile de parler avec mon père pour dire, tu m'as toujours dit qu'on devait parler comme des hommes, j'installais le truc, tu vois. J'ai eu cette chance de pouvoir parler énormément. Après, ma mère, j'ai parlé énormément avec elle parce que la situation a fait que j'ai voulu et qu'il fallait, tu vois. Mais je regrette pas, quoi. Parce que j'ai appris énormément de choses. Et ça règle beaucoup de problèmes. Je te jure que on le voit pas, mais des fois, tous, on doit vraiment faire l'effort de parler plus à nos parents. Et vous verrez qu'il y a plein de problèmes qui vont se résoudre parce que c'était juste ça qui manquait, quoi, une discussion entre adultes.
La transmission.
C'est ça.
Et du coup, c'est quoi ton parcours scolaire?
Ah, quelle catastrophe. Mais c'est simple, si on m'avait dit à 16 ans, tu peux arrêter l'école, je l'aurais fait.
D'accord.
Moi, dans ma tête, l'école, c'était pas j'ai jamais vu l'école comme quelque chose où tu peux venir apprendre. Moi, dans ma tête, c'était juste, l'école, c'était un grand parc d'attractions où je venais voir mes potes Et point, quoi.
Et pourquoi ça?
Pourquoi ça? Déjà parce que j'ai su très vite ce que je voulais faire. Mmh. Je savais que je voulais faire du théâtre, de la comédie.
Des petits.
Depuis l'âge de 7 ans, je sais ce que je veux faire exactement. Et donc, je me disais, est-ce que ça sera quelque chose d'école? Et du coup, je me suis mis à choisir mes matières. Ça, c'est horrible, tu vois. C'est quoi? Non, mais c'est vrai. Tout ce qui était littéraire, français, histoire, ça, je kiffais. Peut-être tu nourris ton cerveau de plein de choses, de plein d'histoires. Donc, le français et l'histoire, j'adorais.
Ah, parce que l'histoire, c'était compliqué, ouais, comme à l'école.
Ouais, mais c'est fou, quand t'es petit, et tu le vois pas. Et les matières comme les maths.
Non, c'était pas ton truc.
C'était horrible, quoi. Je détestais ça, je ne comprenais pas. Je disais, attends, on sait compter, tout ce qu'il nous faut, quoi. Je crois pas que j'aurais besoin du théorème de Pythagore dans ma vie. Vraiment, Et maintenant, je regrette. Maintenant, je regrette pour les maths, parce que les maths, je sais que maintenant, une fois adulte, quoi. Donc, je veux pas me remettre à tout retravailler, tout ça. Mais les maths, c'est un langage, quoi. C'est un langage qui est partout, qui est présent partout. C'est que maintenant que je commence à avoir regretté de me dire, attends, les maths, j'aurais dû vraiment me mettre à fond dedans, parce que c'est un langage, je suis très Égypte antique.
Oui, vas-y.
Dans l'Égypte antique, c'est fou les traces mathématiques qu'ils nous ont laissées, quoi. Et quand je dis que c'est un langage, c'est que c'est vraiment là, quoi. Nous, on n'arrive pas à le lire, mais qu'on on pourrait régler tellement de choses si on était vraiment calé en maths, quoi.
D'accord.
Ah, moi, je suis persuadé que le monde, alors, appelez-le comme vous voulez, Dieu, le Tout-Puissant, Allah, comme vous voulez. Mais je suis persuadé que c'est un très, 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 très grand mathématicien, et qu'il a tout fait sur la base des maths, que tout n'est qu'une question de maths, en fait. Tout ce qu'on vit, c'est pour moi, c'est juste des grands problèmes, tu vois. Genre comme si on te disait à un point A, un point B, on se demande comment les Égyptiens ont construit ces merveilles, ou on se demande même comment ils ont réussi à découvrir, comme je disais, le mètre, le décimètre, le centimètre, bien avant nous, tu vois. C'est juste que les gens ont compris que sur Terre tout est maths, et que avec une goutte d'eau, ils ont réussi à sortir le centimètre.
Comment se fait-il que ce langage est accessible à qu'à certains?
Moi, je vois tout sous une époque kémite. Au temps de l'Égypte antique, les maths, c'était pas un truc donné à tout le monde. C'est vraiment l'élite de l'élite, comme c'était les prêtres, c'était les architectes. Ils se sont transmis un truc entre l'élite, et voilà, aujourd'hui, je dis pas qu'aujourd'hui c'est la même, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tout le monde. Tu vas à l'école, on t'offre la base, tu vois, au moins la base. Après, c'est à toi de chercher si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir plus de choses.
En même temps, l'école, je sais pas, si je veux être scientifique, par exemple, pour certaines personnes, c'est pas si évident et c'est pas si facile. Donc, ça reste quand même un parcours d'élite. Ça veut dire que des gens comme toi et moi, normalement, au sein de l'école, arrivé à un certain temps, on est orienté vers la professionnalisation. Donc, ça reste quand même une élite pour pouvoir avoir des études supérieures en mathématiques, en sciences. Donc, c'est quand même, c'est dans ce sens-là où je te disais.
Que ça reste élitiste, je sais pas. Oui, on nous oriente. Mais encore une fois, c'est qu'une question de choix. Parce que je veux dire, à la fin, le choix, il est à toi. On peut t'orienter où tu veux, mais si t'as les notes pour ou si t'as l'envie pour, à un moment, tu te dis, non. Là où je sais pas dire, je rejoins pas. Parce que c'est
prouvé. Non, mais t'as le droit de pas rejeter.
Je sais. Mais je sais que c'est prouvé qu'on nous a, beaucoup, on nous a envoyé dans des filières qui étaient forcément pas les nôtres. Moi, je t'ai dit, à l'école, j'ai jamais, si je pouvais arrêter à 16 ans, j'aurais arrêté à 16 ans, quoi. J'ai continué parce que mon père était derrière moi et qu'il m'a dit, je vais te chicoter si tu continues pas, mais. Encore une fois, moi, je pense que c'est très bête, mais pas qu'une question de choix. Parce que je pense aussi que ton entourage fait que. Je sais pas si tu vois, mais quand on est petit, on veut tous faire des métiers un peu bizarres.
Ouais.
Non, mais il y en a qui ont des métiers, par exemple, qui sont un peu plus réalisables. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, avant de vouloir faire du théâtre, je voulais être soit paléontologue, soit océanographe, tu vois.
D'accord.
Et. En vrai, on doit te motiver. On doit te dire, c'est ça que tu veux faire. Moi, voilà ce qu'on m'a dit. Lenny, t'es au courant que si tu veux faire ça, il faut être bon en maths. Il faut être très, très bon en maths. Et on a fait que te descendre. Et je pense qu'aussi, il y a de ça aussi. Le système scolaire, comme on te le présente, t'emmène vers des phases qui sont pas forcément les tiennes. Mais je pense que notre entourage aussi a un grand rôle à jouer. C'est-à-dire que plus tu vas dire à un enfant, non, mec, c'est pas fait pour toi et tout, c'est dans la logique que lui-même, il n'est pas confiance en lui, tu vois.
Exactement.
Je pense que c'est, en tant que parent aussi, c'est ça, le truc. C'est qu'il faut nourrir. Après, je dis pas, j'imagine qu'il y a plein de parents qui ne connaissent pas le système scolaire. Comme tu dis, ils vont écouter la conseillère d'orientation. Très dur, mais je pense que, j'aime pas dire ça, mais ça reste quand même une question de choix parce que, un enfant qui va se donner les moyens, c'est très dur. Qui va se donner les moyens, dans la logique, il sait ce qu'il veut faire. Par exemple, si je lui dis, le gars a 13 de moyenne, tu pourras l'envoyer vers où tu veux. Hein. Si dans sa tête, il a dit non, moi, je préfère ça. À un moment.
Moi, je ne crois pas au truc du mérite. Vraiment pas, parce que je trouve que c'est injuste. Ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes, ça va être lisse comme ça pour eux, et d'autres parce que la classe, parce qu'ils sont racisés, eh ben, on va leur mettre tout le temps des bâtons dans les roues.
Est-ce que ça, c'est pas notre lot? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais il faut pas que ça, à un moment, il faut pas que ça continue à être notre lot, en fait. Moi, je suis contre...
sur le coup, je suis radical, je suis Malcolm X sur le coup. On le sait, tu vois. Et je pense que c'est aussi, c'est ce que je dis, c'est aussi à nos parents. Et je pense que nos parents, la seule phrase qu'ils nous trouvaient à dire, c'est, il faut travailler deux fois plus ou trois fois plus. Hein, on l'a tous entendu. C'était leur façon de nous préparer. Bon, on le sait qu'on, j'aime pas dire ça, mais en vrai, on n'est pas chez nous. Donc, on le sait, ils vont pas nous faire une bonne passe du jour au lendemain. Ça fait plus de 400 ans que les gens se battent. Je pense qu'à un moment, il faut plus s'étonner. On peut se rebeller, si on veut, mais on peut plus s'étonner. Tu vois. Alors aujourd'hui, je sais pas, il y a pas longtemps, il y a eu le podcast de Arte qui est sorti. J'entends les gens me dire, t'entends ce que disent la police?
J'écoute même pas parce que c'est...
J'entends ce que disent la police, la police, ils disent la même chose depuis 30 ans. Donc je vais pas un moment, oui, je l'entends et je l'ai entendu. S'il vous fallait une preuve, là voilà la preuve. J'espère que vous l'avez bien entendu. Mais moi, ça me choque plus, quoi. Ça me choque plus, ça me choque pas. Ça a déjà été entendu, dit. Et il y a 10 fois pire qu'on a déjà dit. Donc, faut pas s'attendre à ce que d'un jour, du jour au lendemain, même si demain, soi-disant le racisme n'existe plus, je suis sûr que ça va être encore galère. J'aime pas dire on se plaint, mais on sait qu'on vit pas les vies les plus faciles. Pourquoi on rentre pas sur le continent? Et là, la vraie question, je sais pas si t'as vu, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le poids de la diaspora, où j'explique qu'il faut investir ou retourner là-bas. C'est ce truc de, ouais, mais non, on a plus l'école, on a plus parlé. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans des pays, enfin, on parle tous français, on a tous une base d'anglais, et l'Afrique, c'est que ça. C'est français ou anglais. Après, si tu veux vraiment t'enfoncer dans le pays, oui, il va falloir commencer à parler les langues, parce que c'est plus galère, mais français-anglais, je pense que c'est la base internationale. En tout cas, en Afrique, c'est ça, quoi. 14 pays parlent français, 36 parlent anglais, enfin, à un moment, si tu veux, tu peux. Et je pense que les stéréotypes qu'on nous a mis dans la tête, encore une fois, c'est à nous de les casser et de se dire, en gros, moi, je me dis, tout est à faire là-bas. C'est pas tout est nouveau. Tu vois, c'est-à-dire que tu pourrais demain te dire, je viens de faire une pizzeria. Tu vas là-bas et tu vas être la première pizzeria. Et c'est sûr que les gens vont venir manger parce que c'est nouveau. C'est à nous de venir là-bas et de se dire, je ne suis pas Lenny, l'Européen, qui revient avec tout son savoir. Non, je suis Lenny, le descendant d'Africain, qui a appris des trucs hors d'Europe, qui vient apporter sa contribution, en fait. Moi, je pense que, je sais pas si c'est voulu, pas voulu, mais si nos parents, si on est tous partis, je pense que c'est juste histoire d'amasser un maximum de connaissances et de rentrer. C'est trop bête, hein. Mais j'en suis persuadé que, alors je sais pas si c'est mystique ou comme ça, qu'on soit parti de gré ou de force qu'on nous a emmené, je suis sûr que c'est juste en magazine. Une fois que t'as assez emmagasiné, reviens. Tu vois. Et quand je dis que tout est à faire, c'est qu'ici, on vit pour aller un SMIC où on va se casser le cul à faire des crédits qui risquent de nous être enlevés à un moment donné à un autre parce qu'on n'aura pas assez réglé. Alors que pour les mêmes sommes, là-bas, on serait vraiment comme des rois. Quoi. Donc je pense que c'est à nous, de casser cette peur qui est en nous aussi, de se dire « Ouais, mais l'Afrique, je connais pas trop parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. » Mec, déplace-toi. Ne serait-ce que pour aller en vacances, déplace-toi parce que tu vas rater peut-être les meilleures phases de ta vie. Et tu vas vivre une vie... Vraiment, moi, je reviens là. Avant le confinement, j'étais au Gabon, au Cameroun.
D'accord.
Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous en France, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de me prendre la tête avec l'histoire de racisme de... Là-bas, c'est ouf, hein, le nombre de Français, de Libanais qu'il y a là-bas. Sûr. Et tu te dis, attends, eux, ils ont totalement compris le truc. Qu'est-ce que nous, on n'a pas compris? On est nés ici tout, mais je pense qu'il y a aussi cette chaîne mentale, cette espèce d'aliénation qui fait que oui, mais si je sors de la France, je ne pourrai plus rien faire. Ou je serai perdu, je serai... on a compris, c'est ton pays d'accroche. Mais mec, casse ces chaînes et va voir par toi-même. Tu verras que tu veux... Même nous-mêmes, on va se dire, mais mec, ça fait 30 ans que je suis en France, mais pourquoi j'ai perdu mon temps, quoi?
Donc toi, tu prônes le retour sur le continent.
Moi, je t'explique mon plan d'action de ma vie.
Explique-moi.
Là, je ramasse un maximum de blé. Faites comme moi. Je ramasse un maximum de blé. Une fois que c'est bon, c'est sûr que je me verrai plus en France. Je vais pas me prendre la tête à toujours devoir me justifier de, ouais, c'est mon pays. Enfin, à un moment, tu...
Non, mais ouais. À la jeune génération. Ouais, alors, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, justement?
Rentrez chez vous.
Non, mais là, on va croire que tu fais le discours du Front National. Rentrez chez vous.
Si j'avais des conseils à donner à la jeune génération, plongez-vous dans votre histoire, quoi. Comme je l'ai dit, l'histoire a les réponses des problèmes actuels. Tous nos problèmes actuels, on leur répond dans l'histoire. Maintenant, est-ce que tu as la foi pour aller les chercher? Ou est-ce que tu, comme tout le monde, tu veux faire, c'est la vie, hein. À un moment, regarde, depuis les années 60, 70 que nos parents ils se battent contre le racisme ici. Nous aussi, à un moment, genre. Eh, c'est bon, tu veux pas comprendre, va te faire foutre.
Non, mais c'est ça, c'est épuisant au bout d'un moment.
C'est bon, quoi. Puis même, je suis pas pour ce truc d'essayer de que l'autre nous comprenne. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, je comprends.
Eh, on a essayé toute notre vie, c'est bon, quoi.
Oui. Oui,
oui
c'est vrai que ça, c'est,
ah ouais.
C'est en boucle en fait.
Ah ouais, moi je suis pas. Non, il n'y a pas de. Oui, mais il faut leur faire comprendre. Oui, mais.
Non, puis il y a des livres, il y a Internet, il y a plein de choses.
À un moment, s'il ne veut pas comprendre, c'est qu'il est vraiment con. Quoi.
Et justement, pour la jeune génération, ce qui est bien en fait avec tes vidéos, c'est que tu l'expliques de façon quand même super drôle. avec ton petit.
Ukulélé. Tu sais ce que c'est ça?
C'est pas Koh-Lanta quand même. Non.
Tu regardes le générique un jour, je vois. Et c'est très bête, hein, mais. Tu vois, la France, ouais. Genre, Nanana, c'est la jungle, c'est bon. Et voilà.
Bah écoute, en tout cas, c'est super de nous avoir accueillis. Et puis, on va continuer à te suivre, à t'écouter, parce qu'on apprend des choses importantes.
Merci.
C'est important d'aller chercher des livres, d'aller chercher des vidéos, d'aller se renseigner, même sur Internet.
Ouais.
Vérifier les sources quand même sur Internet, parfois. Mais voilà, c'est important de se plonger dans son histoire. Et peut-être que tu nous feras un podcast de l'histoire aussi, à ta façon.
Possible. Là, j'ai peut-être d'autres trucs en tête, mais j'aimerais bien inviter des gens. Non, mais je pense que notre diaspora, la chance qu'elle a, c'est qu'elle a encore beaucoup de gens qui sont encore présents et vivants pour nous raconter certaines choses. Tu vois.
Tout à fait.
Et je pense qu'il faut en profiter maintenant.
D'accord. Bah écoute, je te remercie encore une fois.
Merci
et puis,
à toi. Est-ce qu'il faut laisser un dernier message?
Vas-y, laisse-nous un petit message.
Mais moi, j'ai un message. En ce moment, on voit tous la période dans laquelle on vit avec George Floyd, Adama, tout ça. Enfin, on le sent, quoi. Il y a un truc dans l'air. Et je pense qu'il faut faire très attention. Pourquoi faut faire très attention? Parce que c'est dans ces périodes-là que naissent énormément de gens qui ont vous parlé d'afrocentrisme, d'afroculture. Aujourd'hui, vous allez voir que là, on va être dans le plein boom de la mode. Vous allez voir les magazines comme Brut, Combini, qui avant ne parlaient jamais de ça. Alors, vous en parlez fois 10 000. Vous allez voir des nouveaux leader, je dis bien leader entre parenthèses, parce que pour moi, posez-les face à des vrais problèmes, vous allez voir très vite que les pseudo-leaders font n'importe quoi. Vous allez voir des gens qui vous parlent d'antiracisme, mais qui vont aller à la manif des SOS racisme. Ouais, faites très attention, quoi. Je pense qu'il faut faire très très attention à qui on suit, à qui on écoute, qui on regarde, qui on parle, parce que ces gens-là peuvent vite vous induire en erreur, quoi. Et vous amener vers une impasse qui fera qu'on se retrouvera dans 30 ans à avoir les mêmes discussions, de parler de violence policière, alors que nous, il y a 30 ans, on en parlait déjà. C'est fou, hein. Tu regardes le MIB, c'était dans les années 80-90, c'est les mêmes combats qu'il y a aujourd'hui, quoi. À un moment, faut se poser des trucs et se dire, bon, toute personne racisée a un choix à faire. Et je pense que suivre énormément de personnes, c'est bien, mais suivre les bonnes personnes, c'est mieux, quoi. C'est mon seul message de fin.
Très
bien. Faites attention.
Merci beaucoup, Léa.
Merci à toi.
Merci. Alors, si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous soutenir en partageant au maximum autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur notre adresse mail lesenfantsdubruitetdeleodeur@gmail.com. Et comme dirait Ulrich, au revoir les amis.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.